Chapitre 27. Dans le récit qu'il nous fait des scènes finales de la vie du Seigneur, Matthieu met l'accent sur l'immense culpabilité des chefs d'Israël. Cela apparaît d'une manière frappante tout au long de l'Évangile, et nous l'avons vu en particulier au chapitre 23. Les premiers versets de notre chapitre nous montrent que même si la condamnation officielle du Seigneur devait être prononcée par Pilate, sa mort est due à leur hostilité à eux. La fin misérable de Judas nous est rapportée dans le paragraphe suivant, sorte de parenthèse venant interrompre la suite du récit. Il s'attendait, semble-t-il, à ce que le Seigneur échappe à ses adversaires et s'en aille comme il l'avait fait précédemment. Maintenant, voyant qu'il était condamné et qu'il se soumettait à eux, le remords et l'horreur de ce qu'il a fait se saisissent de lui. Mais dans son cas, ce n'était pas une véritable repentance à salut dont on n'a pas de regret, car une telle repentance est étroitement liée à la foi. Or, il n'avait pas la foi. S'il l'avait eue, il se serait tourné vers son maître, comme Pierre qui avait, lui aussi, gravement manqué. Judas a eu les yeux ouverts sur son péché, mais il s'est ôté la vie, commettant un suicide. Celui-même qui a livré le Seigneur à ses ennemis doit confesser son innocence. Dieu l'a voulu ainsi, et c'est très frappant. Le nom même de Judas est passé en proverbe, incarnant la traîtrise. Mais Anne et Caïphe sont des hommes plus méchants encore. Nous le voyons au verset 4. Judas a livré le sang innocent, et eux l'ont condamné. Il a eu au moins quelques sentiments de remords pour ce qu'il avait fait, suffisamment pour l'amener à se donner la mort. Eux étaient complètement insensibles. Qu'était pour eux le sang innocent? Ils n'avaient aucun remords à le verser. Ils n'avaient pas non plus la crainte de Dieu qui ne passe pas sur le mal. Ils étaient prêts à tuer l'innocent, disant dans leur cœur « Tu ne t'enquerras pas ». Psaume 10, versets 8 et 13. S'ils avaient eu la moindre crainte de Dieu, jamais ils n'auraient dit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants », comme nous le lisons dans ce chapitre. Judas n'a jamais profité de ces 30 pièces d'argent. Séduit puis finalement possédé par le diable, il a tout abandonné pour ne rien recevoir. C'est ce qui se produit toujours lorsque des hommes petits et stupides cherchent à conclure un marché avec le géant qu'est l'esprit du mal. À présent, l'argent est de nouveau entre les mains des sacrificateurs et il leur donne l'occasion de couronner tous leurs autres péchés par la pire hypocrisie. Leur souci d'accomplir scrupuleusement la loi les empêche de mettre ces pièces dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Mais qui en a fait le prix du sang? Eux-mêmes. Aussi accomplissent-ils les Écritures en achetant le champ du potier. Leur acte devient public, et le champ acquiert ainsi son nom de « champ de sang ». L'ironie du jugement gouvernemental de Dieu transparaît dans cette désignation, car dès ce moment-là, ce lieu a été un champ de sang et une place de sépulture pour les étrangers. Il le sera dans un sens plus large encore, et cela jusqu'au jour où le Rédempteur viendra à Sion. Les autorités religieuses ont maintenant livré Jésus au gouverneur civil. Dans les versets 11 à 26, nous trouvons ce qui se passe devant ce dernier. Lorsque Pilate l'interroge devant la multitude, Jésus ne prononce que trois mots. « Tu le dis ». L'équivalent de notre « oui ». Il confesse qu'il est véritablement le roi des Juifs. Or c'est là le principal motif d'accusation dressé contre lui devant la puissance romaine. Les trois évangiles synoptiques concordent sur ce point. Jean rapporte d'autres questions posées par Pilate et auxquelles Jésus répond dans l'intimité relative du prétoire. Et trois fois, il mentionne que Pilate sortit vers la foule. Lorsqu'il est interrogé en public, Jésus ne répond rien, car il n'y avait, en réalité, rien à répondre. Pilate ne devait pas tarder à s'en apercevoir, et il s'en étonne fort. Il connaissait parfaitement les coutumes subtiles des Juifs, et son esprit légal, exercé, a vite fait de discerner l'envie qui est à l'origine du procès. D'un autre côté, il craint le peuple et veut être bien avec lui. Ainsi, Pilate a l'esprit singulièrement troublé. Pour condamner Jésus, il doit violer son sens de la justice et passer outre aux songes et à l'intuition de sa femme. L'échec du subterfuge par lequel il espérait se sortir de ce dilemme l'agite d'une manière évidente. La foule accusatrice est excitée par la ruse des sacrificateurs et des anciens. Le prisonnier est la seule figure sereine au milieu de cette terrible scène. Nous voyons Pilate abdiquer pratiquement sa fonction de juge pour ce cas et rejeter la responsabilité sur le peuple. Il n'est, naturellement, pas réellement déchargé pour autant, mais cela a pour conséquence que le peuple prend sur lui la pleine responsabilité du sang de son Messie. Le verset 25 nous donne l'explication des souffrances qui ont frappé le peuple et qui poursuivent ses enfants jusqu'à ce jour. Ils auront encore à traverser la grande tribulation avant que le compte soit réglé selon le gouvernement de Dieu. Barabbas est relâché et Jésus est condamné à être crucifié. Puis, versets 27 à 37, nous voyons Jésus livré entre les mains des soldats romains. Là, ce sont les moqueries vulgaires, la brutalité et enfin la crucifixion elle-même. Pour que son humiliation soit complète, ils le mettent au rang des iniques en le plaçant entre deux brigands. Il n'y a pas trace de justice, de pitié, ni même de compassion élémentaire, que ce soit de la part des autorités religieuses, civiles ou militaires. En le condamnant, les Juifs comme les gentils se condamnaient eux-mêmes. Les versets 39 à 44 nous montrent toutes les classes s'unissant pour insulter Jésus alors qu'il est cloué sur la croix. Lorsque des criminels particulièrement méchants sont condamnés à mort, ils sont en butte à des paroles sévères, mais même aux êtres les plus mauvais et les plus dépravés, les moqueries sont épargnées dans l'agonie de la mort. Et pourtant, c'est ce qu'a dû subir, lorsqu'il était sur la croix, celui qui incarnait toute la perfection, tant divine qu'humaine. Il n'y avait pas de différence, sauf dans les expressions employées. Ceux qui passaient par là étaient les gens ordinaires, ceux qui vaquaient à leurs affaires. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, faisaient partie des classes supérieures. Mais les brigands aussi l'insultaient de la même manière. Ils représentaient les plus vils, les criminels, mais ne faisaient que suivre les autres dans leur langage grossier et vulgaire. Il était le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Il aurait pu déployer sa puissance, alors, aussi facilement qu'il le fera en jugement dans très peu de temps. Mais en restant là où les mains d'hommes iniques l'avaient placé, et en portant lui-même le jugement du péché, il manifestait l'amour divin. Matthieu n'en donne pas ici un exposé doctrinal, mais il passe au récit des 3 heures solennelles de ténèbres, à la fin desquelles la sainte victime, d'une forte voix, a donné expression au cri rapporté par l'esprit prophétique dans le premier verset du psaume 22, quelques 1000 ans auparavant. Au 3e verset de ce psaume, nous avons une réponse à ce cri. « Et toi, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. » Un Dieu saint ne peut demeurer au milieu des louanges d'hommes pécheurs que si l'expiation a été faite, le jugement du péché ayant été porté. Étant fait péché pour nous, celui qui n'a pas connu le péché devait inévitablement connaître l'abandon. Ceux qui se tenaient là n'en savaient rien. Ils semblent même avoir été incapables de distinguer entre Dieu et Élie. Puis, selon le verset 50, il y eut encore un cri puissant. Et Jésus rendit l'esprit. Les paroles exactes exprimées dans ce dernier cri nous sont rapportées en partie dans l'Évangile selon Jean et en partie dans l'Évangile selon Luc. Jésus cria d'une forte voix, témoignage que ses forces n'étaient pas altérées et qu'il rendait ainsi lui-même délibérément son esprit. Sa mort était surnaturelle et elle fut suivie immédiatement de signes surnaturels qui en indiquaient la signification et la puissance. Le premier de ces actes de Dieu concerne le voile du temple, type de l'humanité du Seigneur, voir Hébreux 10. Sous la loi, le chemin des lieux saints n'était pas encore manifesté, Hébreux 9, verset 8. Maintenant, il l'est, car, par la mort de Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu. Le deuxième acte est en rapport avec la création matérielle. La terre trembla, les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent. Le troisième, avec les corps des saints endormis. Après sa résurrection, ils ressuscitèrent et apparurent à plusieurs à Jérusalem. Ainsi, un triple témoignage était rendu de la manière la plus frappante. Le premier en relation avec la présence de Dieu, mais sous le type du voile que seuls les sacrificateurs pouvaient voir. Le deuxième dans le domaine de la nature, doit avoir été perçu par tout le monde. Le troisième était sans doute réservé aux yeux des vrais saints. En plus de ces signes, le soleil avait été obscurci précédemment. D'innombrables témoignages étaient rendus à cette heure extraordinaire, et pourtant personne ne semble en avoir été impressionné, excepté le centurion de garde et ceux qui veillaient avec lui. Le travail opéré dans son cœur l'amène à la conviction que, certainement, celui-ci était fils de Dieu, la chose même que son peuple reniait et renie encore. Comme souvent, lorsque le courage et le dévouement des hommes flanchent, les femmes prennent la relève. Les disciples ont disparu, mais plusieurs femmes regardent la scène, même si c'est de loin. Pourtant, un homme, quelqu'un de tout à fait inattendu, s'avance et a le courage de s'identifier avec le Christ mort, demandant son corps à Pilate. C'était un disciple de Jésus, mais en secret jusqu'alors, comme nous le dit l'Évangile selon Jean. Il était l'homme riche, propriétaire du sépulcre neuf, qui a agi de manière à ce que Ésaïe 53 soit accompli. C'est la seule chose que nous sachions de ce Joseph d'Arimathée. Dieu ne manque jamais d'un serviteur selon sa volonté pour accomplir sa parole. Joseph est né dans ce monde pour accomplir cette unique et brève déclaration prophétique, et ainsi, bien que les hommes aient donné à Jésus son sépulcre avec les méchants, il a été avec le riche dans sa mort. Les femmes qui ont assisté à sa mort et à son ensevelissement étaient dévouées, mais manquaient d'intelligence. Ce sont ses ennemis acharnés qui se souviennent l'avoir entendu dire qu'il ressusciterait d'entre les morts. La mémoire et l'esprit ravivés par la haine, ils envoient une délégation à Pilate pour demander que des précautions particulières soient prises. Il renie ce qu'il a accompli dans sa vie, le taxant de premier égarement. Ils craignent que sa résurrection puisse être constatée, conscient que cela aurait des effets beaucoup plus puissants. Pour eux, ce serait un dernier égarement qui serait pire que le premier. Ce serait inévitablement la justification de leur victime et leur propre condamnation. Ils le savaient parfaitement. Que ce soit à l'égard de Joseph ou de ses hommes, Pilate est consentant. Il leur accorde ce qu'ils demandent. Une garde de soldats est placée, mais il semble y avoir une note ironique dans ses paroles. « Rendez-le sûr, comme vous l'entendez. » Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, et ils n'ont réussi qu'à établir, au-delà de tout doute raisonnable, le fait de la résurrection de Jésus, une fois que celle-ci a été accomplie, et leur savante mesure s'effondre. Dieu a changé leur sagesse en folie. Il a permis que leur plan serve son propre dessein et détruise le leur.